Salut, ici Captain Adam Horton avec le balado d'armée canadienne. Où se trouve l'infanterie? Il y a presque toujours son partenaire d'équipe, le corps blindé. Le corps blindé apporte une variété d'armes et de protections, généralement sous la forme de véhicules. Et bien que les chars d'assaut soient formidables, le corps blindé a beaucoup plus à offrir. L'adjudant-chef Dave Vudon est le sergent-major de l'école des blindés à la base des forces canadiennes Gagetown. Il va nous expliquer tout ce qui a rapport avec les blindés. Bienvenue au balado!
Hey, merci de l'invitation.
On a parlé des chars d'assaut sur le balado il y a déjà, mais dans le domaine moderne des blindés, c'est pas juste des chars d'assaut. Qu'est-ce que le corps blindé apporte au champ de bataille vraiment?
Bien, les grosses différences, et puis c'est là où on va aller plus loin que le char d'assaut lui-même, c'est que le corps blindé, c'est plus large que ça. En gros, le corps blindé, il repose sur trois axes majeurs, qui se trouvent à être la puissance de feu, la mobilité et puis la protection. Mais ça peut être fait avec plusieurs véhicules, pas seulement le char d'assaut. Évidemment, le char d'assaut, c'est lui qui est le fer de lance de ces actions-là. Mais on a d'autres véhicules aussi qui sont en mesure de faire ça. La grosse différence du blindé par rapport aux autres métiers des armes de combat, c'est le fait que nous, on veut être capable de façonner l'ennemi ou de l'engager à travers ces trois éléments-là. Donc, utilisant la puissance de feu, la mobilité puis la protection. Ça fait en sorte qu'on peut le faire avec d'autres véhicules, entre autres le LAV-6 et puis le TAV-V. On a bougé de notre ancienne doctrine où on était simplement de la reconnaissance. Donc, avant, le corps blindé, c'était seulement les chars d'assaut et puis la reconnaissance. On s'est rendu compte que la reconnaissance n'avait pas une posture assez agressive pour être capable de faire face aux défis du champ de bataille moderne. Donc, on a élargi notre mandat pour être capable de faire plus de tâches. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la cavalerie blindée. On a la cavalerie légère, moyenne et lourde. Et puis, la cavalerie blindée, bien, ça englobe les tâches de reconnaissance, mais à travers l'utilisation de la force plus musclée pour être capable non seulement de trouver l'ennemi, mais s'il faut l'engager, le détruire ou le façonner. Donc, c'est-à-dire l'obliger à faire des choses que peut-être nécessairement il ne veut pas faire à travers notre puissance de feu. Puis ça, on est capable de le faire avec pas seulement les chars, mais aussi des véhicules tels que le LAV-6 et puis le TAV-V.
Vous avez parlé de façonner l'ennemi, puis vous avez dit que qu'est-ce que c'est mettre l'ennemi dans une position où ils vont faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Est-ce que vous pouvez peut-être décrire plus en détail comment que cette fonction-là est exécutée par le corps blindé?
Par exemple, on pourrait dire qu'on va avoir une zone où on veut encercler l'ennemi. Et puis souvent, mettons, on voudrait forcer l'ennemi à aller dans cette zone-là. On pourrait pousser des forces blindées à un endroit où ce qu'on pourrait appeler un entonnoir où l'ennemi voudrait s'engouffrer. On pourrait pousser des forces blindées à cet endroit-là pour forcer l'ennemi à faire un détour et puis à s'en aller dans une zone où là, il pourrait être engagé par une autre force. Donc, c'est ça, façonner l'ennemi. S'il veut aller quelque part, on va le forcer à ne pas pouvoir aller là. Ça peut être fait de d'autres manières aussi. Ça pourrait être fait en utilisant des champs de mines ou avec de l'artillerie. Mais les forces blindées peuvent être aussi faites pour faire ça, pour l'empêcher d'aller quelque part ou pousser l'ennemi dans un champ de mines ou le pousser vers une zone où il va avoir de l'artillerie. Donc, encore une fois, façonner l'ennemi, ça veut dire le forcer à faire quelque chose que peut-être qu'il n'était pas dans ses plans initiaux puis c'est pas ça qu'il voulait refaire et puis qui vont nous permettre à nous d'accomplir nos objectifs.
Et tout justement, quand on parle de l'artillerie, on travaille tout ensemble pour activer ces objectifs-là, dans le sens que peut-être l'artillerie moins mobile, beaucoup de puissance en termes de capacité de causer du dommage, mais aussi pas de protection ou très peu de protection, tandis que blindé, beaucoup plus de protection, beaucoup plus d'agilité. L'infanterie, beaucoup agile, mais très peu de protection. Puis en utilisant tous ces outils-là, c'est de même qu'on façonne l'ennemi, comme vous dites.
Exactement. Puis évidemment, on travaille toujours dans un contexte, comme tu as dit, interarme. C'est-à-dire que on va travailler de pair avec l'infanterie, avec l'artillerie, pour s'assurer qu'on a un effet maximal sur l'ennemi lorsqu'on va travailler. Puis qu'on travaille toujours en coopération parce que l'infanterie fait des choses qu'évidemment les blindés ne peuvent pas faire. Et puis, c'est vrai pour tous les métiers, là. Donc, c'est en travaillant ensemble qu'on fait la force de l'équipe. Évidemment, les chars d'assaut peuvent pas rentrer dans des buildings, peuvent pas rentrer dans des tranchées. Et puis, surtout, les chars d'assaut peuvent pas tenir le terrain. Parce que lorsqu'un char d'assaut arrête, c'est là qu'il devient plus vulnérable. Puis quand je dis char d'assaut, c'est les forces blindées en général, là, c'est aussi les LAV-6. Mais lorsque des les forces blindées s'arrêtent, s'immobilisent, c'est là qu'elles deviennent le plus vulnérables parce qu'elles sont susceptibles à des tirs d'armes anti-char, à de l'artillerie, eux autres aussi. Donc, il faut qu'ils soient en mouvement. Et puis, lorsqu'il faut tenir le terrain, évidemment, les chars d'assaut ont besoin des autres corps de métier, des autres armes de combat pour être en mesure de le faire, là, c'est-à-dire l'infanterie, l'artillerie, les ingénieurs.
Est-ce que vous pouvez peut-être décrire un petit peu les différents niveaux d'équipement puis comment ils sont appliqués en relation à eux-mêmes?
Oui, bien, présentement, le corps blindé, comment on est configuré, c'est qu'on a trois configurations, si on peut dire. Donc, on a la cavalerie blindée, puis elle se divise en trois. La cavalerie blindée lourde, ça, c'est les chars d'assaut. La cavalerie blindée légère, qui se trouve à être très large, là, ça part du Jeep, ça pourrait partir d'une moto ou d'une motoneige, et puis ça va jusqu'au LAV-6. Fait qu'un LAV-6, c'est un véhicule blindé léger, VBL. Donc, ça, c'est toute la cavalerie légère. Et puis, là où on n'a pas une certaine capacité présentement au Canada, c'est au niveau de la cavalerie moyenne, OK? Qui serait comme un char léger, si on veut, comme ça serait comme un léopard, mais beaucoup moins lourd, qui est plus facilement aérotransportable. Et présentement, ce n'est pas une capacité qu'on a au Canada parce que ce n'est pas un équipement qu'on a. Par contre, les tâches sont les mêmes. Donc, on peut faire autant de la reconnaissance avec un char léopard ou on peut faire des attaques avec un LAV-6. Ce qui va changer, ça va être évidemment l'objectif qu'on va engager. On ne pourra pas attaquer des chars ennemis avec des véhicules légers tels que les Tapvis ou avec un Jeep. Évidemment, ça fait du sens. Les chars vont attaquer les chars. Par contre, on peut facilement attaquer une petite position démontée avec des Tapvis. Donc, toutes les tâches sont les mêmes. Ce qui va changer, c'est les conditions. Puis c'est ça qui va définir qui va faire quoi.
T'sais, on parle beaucoup des plateformes différentes, des chars d'assaut, des Tapvis, des LAV-6, mais peut-être que les auditeurs n'ont pas dans leur tête qu'est-ce que ça a l'air. Est-ce que vous pouvez décrire les plateformes différentes?
Dans le fond, on a plusieurs plateformes au niveau du corps blindé, comme on a parlé. Fait que je vais commencer du plus petit au plus gros. Ben, on a le Jeep, on a le Mercedes G-Wagon. Donc, il faut juste imaginer un Jeep vert avec un écoutier sur le dessus puis une mitrailleuse. Et puis, très rapide, très mobile, peu blindé, mais qui est capable de se faufiler un peu partout, d'avoir une vision, puis encore une fois, très efficace lors des tâches de reconnaissance. On est encore dans la cavalerie légère. Par la suite, on a le Tapvis. C'est un véhicule de patrouille et d'application tactique. Et puis, c'est un véhicule-là armé avec un système télécommandé, avec un lance-grenade automatique de 40 mm, et puis une mitrailleuse coaxiale, donc une mitrailleuse de 7,62 mm, qu'on appelle la C6. Donc, c'est un véhicule à quatre roues, assez lourd, aux alentours de 35 tonnes, et puis qui a une bonne mobilité, bonne protection, une puissance de feu, on pourrait dire, plus limitée, mais qui est quand même très efficace pour faire les opérations de cavalerie légère. Ensuite, on a le véhicule qu'on appelle le LAV-6. Là, on a un véhicule à 8 roues motrices, blindé, armé avec une tourelle avec un canon de 25 mm et puis une mitrailleuse coaxiale de 7.62. Donc, il faut penser comme un peu comme un mini-tank avec des roues qui est blindé. Finalement, et puis là, on aurait le char d'assaut lourd qui se trouve à être le Léopard 2. On a trois variantes, là, le A4, le A4M et le A6, qui se trouve à être le char lourd armé avec un canon de 120 mm. Donc, c'est ce que les gens voient dans leur tête lorsqu'on pense à un char d'assaut. Le véhicule avec un gros canon, une grosse chenille qui fait beaucoup de bruit, puis tu sais, des gros obus de 120 mm avec une mitrailleuse coaxiale. Encore une fois, quand on dit coaxiale, c'est-à-dire une mitrailleuse qui est à côté, qui est en ligne avec le gros canon de 7,62 mm là, comme armement principal là, au niveau du char d'assaut.
En parlant peut-être un peu plus de comment on fonctionne, vous dites tout justement, le corps blindé utilise des LAV ou des VBL ou peu importe comment on veut les appeler, mais les fantassins mécanisés aussi utilisent les mêmes véhicules. C'est quoi la différence entre cette utilisation-là dans le contexte de blindé versus le corps d'infanterie?
Encore une fois, la grosse différence est dans la priorité de nos actions qui est sur les trois piliers dont j'ai parlé, là, puissance de feu, mobilité et protection. C'est-à-dire que le but du LAV pour l'infanterie, c'est de transporter les troupes, de les débarquer au bon endroit et puis de leur fournir l'appui-feu nécessaire pour permettre ultimement les opérations débarquées. Le blindé, nous, c'est la puissance de feu embarquée qui est axée surtout sur la mobilité. Donc, on est plus mobile, on n'est pas attaché à l'infanterie qui est nécessairement débarquée à terre. Nous, on peut plus bouger de manière rapide et efficace pour être en mesure d'avoir les effets sur l'ennemi. Par exemple, si l'infanterie a des troupes débarquées, les LAV ont tendance à rester plus proches pour protéger l'infanterie qui est débarquée. Tandis que les forces blindées, on peut facilement, carrément, les déplacer à un autre endroit pour, mettons, supporter encore l'infanterie, mais d'une autre manière. Donc, aller faire une force de flanquement ou aller plus en profondeur pour vraiment s'assurer que l'ennemi n'est pas capable de contre-attaquer sur l'infanterie, des choses comme ça. Donc, on est plus mobile, plus flexible, plus rapide sur le champ de bataille. Pas parce que l'infanterie n'est pas capable, mais parce que leur priorité, c'est de s'assurer de supporter le fantassin qui est à terre, qui a un travail crucial aussi, mais qui se trouve les opérations débarquées.
Ça soulève une logique super importante, tant qu'à moi, que c'est facile d'oublier que, ben, on se dit, ah, c'est la même chose, devrait être capable de faire la même chose, mais c'est impossible d'avoir deux priorités numéro un. C'est facile de dire qu'on peut tout faire, mais en vérité, c'est quand on a une priorité, on concentre sur la priorité.
Exactement. Et puis, tu sais, s'il fallait imaginer que, par exemple, une compagnie d'infanterie débarque ses fantassins et puis les LAV sont envoyés pour faire d'autres choses, eh bien là, les fantassins au sol seraient vulnérables. Il n'y a personne pour les protéger.
Pour ceux qui connaissent peut-être leur histoire aussi en termes de cavalerie, on avait des archers, disons, à cheval, qui avaient de l'armure légère, qui étaient très rapides et mobiles. On avait la cavalerie lourde, disons, avec de l'armure, des lances qui chargeaient sur le champ de bataille. Comment est-ce que ça fonctionne, ces choses-là, dans le contexte de l'armure ou des blindés modernes?
Ouais, donc ça nous permet d'avoir une certaine flexibilité là, au niveau de nos forces de combat. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser différentes forces pour réagir avec différentes menaces. Donc, tu sais, une menace plus lourde, bien, on va pouvoir y adresser bien, de la cavalerie lourde. Puis des forces plus légères, bien, on va pouvoir envoyer de la cavalerie légère.
Et aussi, il y a question de diversité en termes de... Si on a juste des forces extrêmement lourdes, sont moins agiles, et donc certains types de forces agiles peuvent, disons, les compromettre ou causer plus de problèmes. Donc, tout justement, avoir plusieurs options, ça permet d'avoir plusieurs options pour contrer des choses qui contrent nos options.
Oui, bien, c'est vrai. Puis, tout dans la vie a un prix. C'est-à-dire que, ben un véhicule plus lourd, ben va consommer plus de ressources, plus de carburant, plus d'entretien, plus de pièces, plus de maintenance, plus d'obus. Un véhicule plus léger, ben il est plus agile, il est plus rapide, consomme moins de ressources et plus facile à déployer. Plus facile à déployer aussi par avion, par bateau. Coûte moins d'entretien, moins de maintenance. Donc, il permet d'être plus rapide, plus agile. C'est toute une question d'équilibre, de trouver le bon équilibre entre la ressource qu'on veut utiliser et puis ses forces et ses faiblesses.
Tout justement, comme vous dites, les chars d'assaut, ça coûte cher, ça nécessite beaucoup d'entretien. Et en ce moment, l'armée est en train de regarder comment que nos ressources sont distribuées. Qu'est-ce qui est en train de processus de changer?
Bien, présentement, là, on est en train d'adresser ce problème-là parce que les chars, c'est quelque chose qui consomme beaucoup de ressources et c'est difficile à entretenir. Puis présentement, on a de la difficulté à avoir un bon taux de serviceabilité des chars, de les garder en fonction pour qu'ils soient disponibles pour l'entraînement et les opérations. Donc, on a 3 régiments blindés au sein de la force régulière au Canada et puis 18 régiments de la force de réserve qui est répartis partout à travers le Canada d'un océan à l'autre. Les régiments de réserve au Canada, ils effectuent les tâches de cavalerie légère. Donc, ils peuvent faire autant la reconnaissance ou les tâches de cavalerie avec les jeeps qu'avec les tabis. Les 3 régiments blindés de régulière, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on centralise les chars avec le régiment qui se trouve dans l'ouest, le Lord Strathcona Horse Royal Canadian Regiment, communément appelé les Strathcona, qui se trouve présentement à Edmonton. Donc, eux vont devenir le régiment de cavalerie lourde pour le Canada. Donc, tous les chars vont être centralisés dans l'ouest, en Alberta, à Edmonton. Et puis, le champ d'entraînement se trouve à être Wainwright, aussi en Alberta. Les 2 autres régiments blindés, qui se trouvent à être le Royal Canadian Dragoons, situé à Petawawa, et le 12e régiment blindé du Canada, à Valcartier, sont convertis en cavalerie légère, équipés principalement avec des LAV 6 et puis des TAV-V. Et puis, eux autres vont s'acquitter des tâches de cavalerie légère. Et puis, le RCD, le Royal Canadian Dragoons, eux possèdent aussi un escadron léger basé ici à Gagetown. Et puis, le gros changement qu'il y a eu, c'est qu'ici à Gagetown, le RCD possédait un escadron lourd de chars. Et puis, cet escadron-là se déplace présentement là, pour être mobilisé à Edmonton et convertir l'escadron C ici à Gagetown du RCD en escadron de cavalerie légère.
Donc, c'est sûr que ces changements-là vont peut-être avoir un impact sur l'exécution d'entraînement. Qu'est-ce que ça va avoir de l'air en y regardant d'avant?
Présentement, au niveau de la cavalerie, ça ne change pas grand-chose parce que nous, au corps blindé, tout le monde est qualifié pour travailler au sein d'un escadron de cavalerie, peu importe que ce soit léger, moyen ou lourd. Donc, un sergent du 12e régiment blindé du Canada à Valcartier pourrait servir sur un char d'assaut. C'est pas un gros problème d'avoir ce sergent-là pour être en mesure de fonctionner. Les tâches sont pas mal les mêmes en termes de cavalerie, que tu sois de la cavalerie légère ou lourde. C'est pas mal les mêmes tâches. Ce qui change, c'est la plateforme. Donc, le sergent de Valcartier, par exemple, et qui est habitué de faire la cavalerie légère, a simplement besoin d'une petite mise à jour puis d'avoir les qualifications sur la plateforme, c'est-à-dire, dans ce cas-là, le Léopard, puis il sera en mesure de travailler au sein du char d'assaut. Donc, au niveau de nos tâches, au niveau du corps, ça ne change pas grand-chose, à part le véhicule lui-même. Donc, ce qui change, c'est les boutons, la manière de faire fonctionner les systèmes. Mais d'un point de vue tactique, les tâches sont très, très similaires, que vous soyez cavalerie légère ou lourde. De plus, une partie que j'oubliais, on a aussi l'école du corps blindé, dont laquelle je fais partie, ici à Gagetown. Et puis, c'est nous ici qui fournissons l'entraînement pour l'essentiel du corps blindé. Puis, quand on parle d'entraînement, je parle principalement les qualifications que les membres du corps blindé soient considérés tels quels. C'est-à-dire que, pour devenir, par exemple, un mécanicien, il faut que les membres des Forces canadiennes aillent à l'école des mécaniciens à Borden. Mais c'est le même principe. Après avoir terminé leur cours de recrue de base à Saint-Jean, les membres viennent ici à l'école du corps blindé. Et puis, c'est ici qu'ils vont recevoir leur formation pour devenir des membres d'équipage. Et puis là, tout au long de ta carrière, tu reviens ici et puis tu vas revenir pour faire ton cours de chef d'équipage qui va te permettre de devenir un sergent, les cours d'officier pour devenir des chefs de troupe, et ainsi de suite, tout au long de la carrière des membres de l'école blindée.
Donc, on est en train de faire une préparation pour un déploiement en Lettonie ou, disons, augmenter notre niveau de participation en Lettonie au travers de l'opération Réassurance. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe particulièrement du côté du blindé avec ça?
Présentement, au niveau du corps blindé, là, c'est un moment très excitant parce qu'on va déployer beaucoup de membres du corps blindé en Lettonie. C'est présentement notre focus opérationnel au niveau de l'armée canadienne puis aussi au niveau du corps blindé parce que pour la première fois depuis l'Afghanistan, on va déployer des chars en théâtre opérationnel en Lettonie. Au total, on va déployer là, à peu près un escadron et demi là, de troupes blindées en Lettonie, c'est-à-dire un escadron de cavalerie légère, on pourrait aussi l'appeler l'escadron reconnaissance, en Lettonie, et puis environ une moitié là, d'un escadron de chars qui va être positionné en Lettonie aussi. Et puis ça, on prévoit que ça va être pour plusieurs années.
Je sais que pour presque tous les métiers, disons, il y a des informations, je ne dirais pas secret, là, mais c'est 15-20 ans d'expérience nous donnent peut-être une perspective particulière, une connaissance particulière, qu'on sait des choses que personne ne sait. Est-ce qu'il y a quelque chose que les gens ne savent pas ou que c'est peut-être souvent mal compris au sujet du corps blindé?
Bien, une petite caractéristique intéressante du corps blindé, c'est que nos soldats, très tôt en carrière, ils ont une connaissance là, globale du champ de bataille à cause de notre mobilité. Parce qu'on se déplace beaucoup sur le champ de bataille, on a tout le temps une vision large, puis une compréhension large du champ de bataille. Puis aussi dû au fait que nos soldats, la première chose qui se passe lorsque tu arrives au corps blindé, c'est qu'on te met des écouteurs sur les oreilles et puis tu écoutes les radios. Donc, tous les gens dans un véhicule blindé, contrairement à d'autres corps de métier où des fois, tu n'es pas tout le temps au courant de tout parce que tu es trop occupé par tes tâches principales, nous, au corps blindé, on écoute tout le temps les radios. Aussitôt que tu joins le corps blindé, tu as des headsets sur la tête et puis tu écoutes les radios. Puis ça te donne une compréhension dès le début du champ de bataille puis ce qui se passe, des actions à plus grande échelle. Puis ça, ça fait en sorte qu'au corps blindé, on est le seul corps de métier où un adjudant-maître est en commandement, un commandement tactique de quelque chose, c'est-à-dire que le adjudant-maître blindé, le sergent-major d'escadron, commande l'échelon A1, l'échelon qui supporte, au point de vue logistique, son escadron vers l'avant. Puis ça fait vraiment un multiplicateur de force parce que cet adjudant-maître-là, ce sergent-major-là, lui, il a vraiment une bonne connaissance du champ de bataille, il a l'expérience. Puis ça permet aussi au commandant d'escadron, l'officier qui commande l'escadron, Lui, ça lui permet de focusser sur la bataille en avant. Et puis, le sergent-major s'occupe des problèmes et puis des troupes à l'arrière pour s'assurer que l'escadron est maintenu en puissance, qu'il est capable de continuer vers l'avant et puis de se concentrer sur la bataille à venir ou les actions qui se produisent vers l'avant.
C'est intéressant comme point parce que moi, je viens du domaine des fantassins. Puis pour nous, le commandement en termes des sous-officiers, c'est vraiment au niveau du sergent où ce que tu es en charge d'une section et ça, c'est ton moment à être dans un poste de commandement. Donc, en plus de ça, au niveau des blindés, il y a d'autres places où ce qu'on a la capacité d'accepter puis exercer ces responsabilités-là. C'est sûr que c'est spécial.
C'est ça, puis au corps blindé, c'est vraiment super, puis c'est pour ça que moi, j'ai adoré ça. C'est un environnement où on donne beaucoup de latitude à nos gens, puis qu'on leur donne beaucoup d'autorité, parce que justement, pour avoir cette flexibilité d'action-là et cette mobilité-là, bien, il faut donner de la confiance dans nos membres. Donc, au corps blindé, aussitôt que tu deviens chef d'équipage, bien, t'es un commandant, tu commandes ton véhicule. Puis à partir de là, bien, au fur et à mesure de ta progression de carrière, bien, tes responsabilités ne font qu'une chose, c'est-à-dire augmenter au fur et à mesure que tu deviens plus compétent, plus à l'aise dans tes tâches. Lorsque tu deviens adjudant, non seulement tu commandes ton véhicule, mais tu es aussi le commandant adjoint de la troupe, si on veut, où là, tu vas supporter ton officier de troupe, ton commandant de troupe, tu l'épaules, et puis tu es prêt, encore une fois, à assurer le maintien en puissance de ta troupe. Donc, c'est tout le temps un système comme ça qui suit. Et puis, évidemment, bien, tu culmines lorsque tu deviens adjudant-maître ou tu commandes l'échelon A1 pour supporter, à ce moment-là, l'escadron.
Je dirais aussi que pour peut-être des observateurs non avertis, les chars d'assaut, ça n'a pas bien changé au travers des années, mais c'est sûr qu'avec la progression de la technologie, il y a des choses qui ont changé. Qu'est-ce qui sont les innovations qu'on a vues qui ont pris place dans le domaine du blindé? Puis où est-ce qu'on s'en va avec ça?
Beaucoup d'innovations. Les grosses innovations se trouvent, je dirais, à deux endroits principalement, c'est-à-dire les opérations nuit. On pourrait dire que dans les derniers 30 ans, là, tous les systèmes de vision nuit ont énormément augmenté avec la vision thermale. Ça nous a permis de fonctionner autant de jour que de nuit au niveau des chars d'assaut. L'autre, la deuxième grosse innovation qu'on voit au niveau des chars d'assaut, c'est les systèmes de commandement et contrôle. Le Canada, on est encore en évolution là-dessus, on est encore en train d'intégrer des nouveaux systèmes, mais la plupart des armées, les chars maintenant, ont des systèmes informatiques à l'intérieur qui leur permettent en temps réel de recevoir des ordres, envoyer les statuts du véhicule, donc combien que j'ai de munitions tirées, c'est quoi mon niveau de carburant, ce qui permet à tous les échelons de commandement supérieur d'avoir une meilleure vision sur la mobilité des chars, où ce qu'ils sont rendus, puis quand est-ce, à quel moment ils vont avoir besoin d'être ravitaillés, qu'ils vont avoir besoin de ressources. Donc moi, à mon avis, c'est comme les deux plus grandes évolutions au niveau du char blindé.
Bien, j'ai vraiment hâte de voir où ce que ça s'en va. Ça risque d'être intéressant, surtout avec la Lettonie. Bien, merci beaucoup d'avoir participé au balado. On apprécie vraiment ça.
Ah ben merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir, c'est vraiment une expérience le fun. J'ai beaucoup aimé cette discussion-là, ouverte puis franche avec toi puis les auditeurs.
Ouais, on essaie d'en faire plus, autant que possible, vraiment. Ça, c'était l'adjudant-chef Dave Hudon, sergent-major régimentaire de l'École du Corps blindé royal canadien à Gagetown. Moi, je suis Capitaine Adam Horton pour le balado de l'Armée canadienne. Prenez soin de vous.